le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue au magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres de cette émission. La MONUSCO apporte bel et bien son appui aux phares d'essai dans le cadre des opérations lancées contre les ADF. Et cet appui est multiforme. Le commandant des forces onusiennes en RDC, le général Carlos Dos Santos Cruz, l'a souligné haut et fort mercredi dernier à partir de Goma. Les détails dans l'actualité de la semaine. Peace One Day en campagne de promotion de la paix en RDC dans la région des Grands Lacs. Cette ONG britannique, partenaire des agences des Nations Unies, prévoit un méga concert sur la paix à Goma dans les jours à venir avec la participation des artistes congolais et étrangers. Coup de projecteur sur cette ONG britannique, ce sera le décryptage de cette émission. Les déplacés de guerre de Lagabo en Ituri ont choisi de regagner leur village. Il y a 5 mois, ils avaient fui les affrontements entre les FARDC et les miliciens du FRPI de Cobra Matata. Ils ont exprimé ce vœu mercredi dernier à une délégation conjointe des agences des Nations Unies venue de New York. Ce sera notre nouvelle de province.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Les forces de la MONUSCO soutiennent l'armée congolaise dans l'offensive contre les rebelles ougandais ADF. Le général Carlos Dos Santos Cruz l'a réaffirmé et confirmé mercredi dernier à partir de Goma. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Le commandant des forces onusiennes en RDC réagissait ainsi aux allégations selon lesquelles les forces armées de la RDC seraient seules dans la traque contre les ADF. Honoré Missenga Kalala.
Le général Dos Santos Cruz l'avait déjà annoncé lundi à Beni, il l'a répété encore mercredi en précisant la nature du soutien que la MONUSCO apporte au FRDC dans la zone de Beni Kamango.
From MONUSCO to the FRDC against ADF in the area of Beni Kamango.
Je voulais parler d'abord du soutien donc de la MONUSCO au FRDC dans la zone de Beni Kamango. Nous avons tenu plusieurs réunions de coordination pour voir comment soutenir les FRDC et la dernière a été tenue le 15 janvier. À Beni. Effectivement, nous soutenons les FRDC dans le soutien logistique, dans beaucoup de domaines. Donc, par soutien logistique, j'entends l'alimentation, le carburant, les évacuations sanitaires, que le transport. Nous fournissons aussi un soutien tactique aux FRDC.
Ce soutien de la MONUSCO va évidemment continuer, a dit le commandant onusien, et de souligner toutefois que dans l'offensive contre les ADF, le plan des opérations est exclusivement FRDC. Autre détail du général de la MONUSCO, les combats contre les ADF sont différents des combats engagés précédemment contre le M23, du fait notamment que ces combats se déroulent dans des zones montagneuses couvertes de forêts, et du fait aussi que l'ennemi est disséminé à travers un large espace. À ces raisons, le général Alberto Dos Santos Cruz ajoute d'autres pour justifier pourquoi les casques bleus ne sont pas directement engagés dans les combats contre les ADF.
It's completely different, the fight.
C'est complètement différent le combat qu'il faut mener contre les ADF en comparaison de celui qu'on a mené avec le M23. La situation est unique et complètement différente. Le terrain est différent ainsi que la végétation. Le mode d'action des groupes est aussi complètement différent. Et toutes les fois que nous avons eu donc des batailles vraiment intenses sur une position, ça veut dire qu'on était dans le cadre d'une guerre classique. Et quand vous avez des petits groupes disséminés à travers un vaste territoire, évidemment que les bombardements ne sont pas les plus appropriés. C'est pourquoi la tactique consiste à aller petit à petit, lentement mais sûrement, pour ne pas causer des dommages collatéraux, surtout à la population. Donc, nous devons adapter notre tactique aux différentes situations dont nous faisons face.
Par ailleurs, la situation dans le Katanga préoccupe aussi la MONUSCO. Nous avons noté beaucoup d'incidents ces temps-ci dans le Katanga, raison pour laquelle nous y rendrons pour en savoir plus, a dit le général onusien.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une délégation de 6 membres de l'ONG britannique Peace One Day a séjourné la semaine dernière à Kinshasa. Objectif, établir un partenariat avec la société civile, les pouvoirs publics, les ONG et les agences de Nations Unies pour qu'ils s'impliquent plus dans la célébration de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre. Dans ce projet de 3 ans, Peace One Day prévoit plusieurs activités et surtout un méga concert à Goma, au Nord Kivu, pour montrer au monde que la RDC est une terre fréquentable. Alors, qu'est-ce que Peace One Day et quelles sont ses stratégies d'action? Jérémy Guillet, chef de délégation et fondateur de cette ONG, répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Bonjour, Monsieur Jérémy Guillet.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondateur de Peace One Day. Vous êtes en visite de travail ici en République démocratique du Congo. Tous les Congolais ne connaissent pas votre organisation. Est-ce que vous pouvez les présenter pour nous?
Yeah, I'm a filmmaker. I had an idea to create a day of peace.
Je suis cinéaste et j'ai une idée de pouvoir créer une journée pour la paix et pour la non-violence. Et de ce fait, j'ai parcouru le monde, je suis allé jusqu'aux Nations Unies et là, cette idée a été acceptée et les Nations Unies ont effectivement créé la journée pour la paix, la non-violence. C'est la date, c'est le 21 septembre.
And once the day was created, we then wanted...
Cette idée devait être testée. Et nous avons commencé par l'Afghanistan. D'ailleurs, il y a un film intéressant ce qui s'est passé dans ce pays-là. Là où on a pu arrêter les violences pendant un moment, là où on a pu vacciner 1,4 million d'enfants contre la poliomyélite. Et cela fait partie d'une action humanitaire.
Oui. Et est-ce qu'on peut connaître aussi l'objet de votre mission actuellement en République démocratique du Congo?
Well, the Democratic Republic of Congo is an incredible country. It's full of courage and passion and hope.
La République démocratique du Congo, un pays immense, un pays très intéressant, où nous avons une population qui est très courageuse, une population qui espère avoir la paix. Nous allons avoir des histoires assez constructives. Nous allons nous focaliser sur la République démocratique du Congo pendant 3 ans. Nous allons essayer d'aiguiser la conscience des Congolais sur la paix. Nous allons expliquer ce que veut dire ce journée du 21 septembre. En fait, c'est le jour où ce projet a été lancé de manière effective. Nous allons avoir l'implication de toutes les couches de la société congolaise, la société civile, les autorités, la jeunesse étudiantine, en fait, tout le monde. Nous allons également organiser un concert à Goma, où nous allons également focaliser nos efforts. En fait, nous allons donner un message clair sur ce que sont nos attentes sur cette journée.
La paix, c'est un processus. Comment vous allez concrètement impliquer la population ou les populations congolaises dans votre action? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Well, I mean, the 21st of September is the day of ceasefire and non-violence, humanitarian activity. If we are an organization dealing with violence against women or children...
Nous allons demander à ce que toutes les couches de la population soient impliquées. Et à travers la radio CAPI, qui est un instrument puissant, une mine d'informations pour la population congolaise, nous voulons qu'elle passe ce message pour la paix. Et vous qui nous écoutez en ce moment, nous voulons que vous ne veniez pas seul, que vous puissiez associer vos amis, vos familles, les membres de vos églises, que vous puissiez prier pour la paix et aux étudiants qui puissent mener des activités pour la paix, aux ONG qu'ils puissent organiser des activités à caractère humanitaire, aux organismes comme les Nations Unies, la MONUSCO, l'UNICEF, le PNUD, que vous puissiez unir vos efforts pour la promotion de la paix. En fait, j'admets que c'est un processus. D'ailleurs, j'ai eu des rencontres au niveau avec Mary Robinson. Nous avons discuté de ce projet. J'ai rencontré M. Ban Ki-moon avant de venir ici. Demain, j'envisage de rencontrer M. Kobler à ce sujet. Donc, je vous demande de pouvoir associer votre entourage pour la cause de la paix. Il est prévu également un concert à Goma, un concert autour de ce thème qu'est la paix. Nous voulons dire au monde que la RDC est acquise à la cause de la paix.
Then we will are unifying, and out of that unity comes change.
Pourquoi le choix de Goma pour le début de vos activités? Un concert à Goma, pourquoi pas par exemple à Kinshasa ou à Mbandaka ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo?
It's an important city.
Pourquoi avons-nous choisi d'abord Goma? En fait, il fallait commencer quelque part. Et nous savons que Goma, c'est au cœur des événements. C'est là où nous avons plusieurs organisations. Nous avons la société civile. Nous avons les Nations Unies qui sont actives. Ça serait très, très, très intéressant pour nous d'apprendre des histoires de ce qui s'est passé à Goma, apprendre des femmes, des enfants, de la société civile. En fait, nous serons ravis de pouvoir d'être présents dans toutes les villes de la RDC. Et la RDC est un très grand pays. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un processus qui va sur 3 ans. Et effectivement, nous allons envisager d'être un peu partout.
Bold on the 21st of September. Over the next 3 years, we will do things from Kinshasa and other cities.
Focalisons-nous encore sur ces concerts de Goma. Est-ce que vous allez associer des musiciens, des artistes congolais? Est-ce que vous les avez déjà ciblés? Et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, pour faire ce travail-là, il faut avoir des moyens. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour de votre action? Et aussi, comment vous évaluez l'action de la paix après, par exemple, 3 ans que vous allez passer en RDC pour savoir si la paix s'est implantée en République démocratique du Congo?
So, yes, we have the resources.
Concernant le concert, nous avons des ressources pour organiser cette activité parce que nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps. Ils sont nombreux. Nous allons avoir Jude Law, nous avons nos artistes, nos acteurs qui produisent des concerts. Ça sera vraiment merveilleux. Et nous allons également associer des Congolais, des musiciens congolais. À ce stade, je ne peux pas vous dévoiler le nom de ces artistes qui sont en train de se préparer. Il est prévu une conférence de presse. Je crois qu'à l'occasion, nous allons le faire. Nous comptons en tout cas à travers ce concert lancer le message au monde que la RDC est fréquentable. C'est vraiment un endroit où les gens vivent bien et veulent la paix.
That the whole of Africa.
Ce n'est pas important de vous dire combien nous allons dépenser, combien nous avons pour notre budget pour organiser cette activité. Mais le plus important pour nous, c'est le message que nous avons à communiquer au monde qu'il est possible de faire la paix en République démocratique du Congo, que des femmes, des hommes, des enfants que j'ai rencontrés dans la rue, tous ont exprimé le désir d'avoir la paix. Nous voulons faire savoir au monde qu'il y a possibilité d'avoir des histoires positives et constructives de la République démocratique du Congo. À part le conflit qui fait ravage, il y a moyen d'avoir la paix et le peuple est tout acquis pour l'unité de son pays. Voilà ce qui est beaucoup plus important. En tout cas, je me sens inspiré, déterminé à passer ce genre de message. Tous ces mamans et ces papas que j'ai entendus tous à l'unisson ont exprimé leur désir pour l'unité et la paix.
Make sure you do something on the 21st of September and let's send a message to the world that unity is possible.
Et Monsieur Jérémy, je vous remercie.
Merci et Radio Okapi, merci.
Les nouvelles de la semaine, en bref, d'abord la chambre d'appel de la CPI qui a rendu une ordonnance concernant 3 témoins dans l'affaire, procureur contre Mathieu Ngunjolo-Choui. Elle a ordonné au greffier de la CPI de prendre des mesures nécessaires pour le retour de ces témoins sans délai en RDC après consultation avec les autorités des Pays-Bas. Ces témoins détenus ont demandé à la chambre de première instance de ne pas ordonner leur retour immédiat en RDC afin qu'ils demandent l'asile. Les juges ont finalement ordonné au greffier d'informer d'informer la chambre d'appel et de consulter les autorités congolaises avant de prendre les mesures pour le retour immédiat des témoins en RDC s'ils estiment que les mesures de protection actuellement en place ne sont plus suffisantes. À Bukavu, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé du 21 au 23 janvier un séminaire de formation sur le monitoring des violations des droits économiques et sociaux culturels. Des activistes des droits de l'homme de la place et d'autres membres de la société civile y ont participé. L'objectif était de leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances relatives à ces droits, souvent marginalisés par rapport aux droits politiques et civils, et bien sûr de contribuer à l'effectivité de leur réalisation progressive. Enfin, une mission conjointe MONUSCO-Société civile s'est rendue dans la semaine à Zongo, dans la province de l'Équateur. Objectif, sensibiliser les milliers de réfugiés centrafricains, ainsi que les populations locales à la culture de la paix. Plusieurs rencontres ont été organisées au cours de cette mission conjointe, notamment avec la Commission nationale des réfugiés, la société civile locale, la ville de Zongo, les réfugiés ou encore leurs familles d'accueil. La ville de Zongo fait frontière commune avec Bangui, la capitale centrafricaine, en proie à des violences depuis peu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Une délégation d'experts au bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS a séjourné en RDC pendant une dizaine de jours. La mission a eu pour but de travailler directement avec les chefs de projet et ingénieurs de l'UNOPS congolais et internationaux qui encadrent les petites et moyennes entreprises congolaises de construction. Guillaume Lemenez, avocat et membre de cette délégation, est notre invité cette semaine. Il s'est entretenu avec Honoré Missenga Kalala pour expliquer l'intérêt de cette mission.
Guillaume Lemenez, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est l'objet et la durée de votre mission ici en RDC?
Donc, je suis venu ici au Congo pour 10 jours avec une équipe spécialisée dans la gestion de projets de construction afin de contribuer aux efforts de nos équipes dans le développement des infrastructures du pays. Nous sommes ici pour rencontrer les chefs de projet et ingénieurs de l'UNOPS qui sont pour la majorité congolais et qui travaillent au quotidien dans 5 provinces les plus isolées du Congo, avec des entrepreneurs locaux, afin de réaliser les projets dont la gestion nous est confiée. L'échange entre notre expertise et la grande expérience de terrain de nos chefs de projet et ingénieurs permettront d'améliorer encore et de continuer à adapter la solidité des processus de l'UNOPS, notamment à travers le recours de contrats utilisés à niveau mondial. Nous travaillons aussi, par exemple, sur des questions telles que: comment s'assurer que les ouvriers seront payés par l'entrepreneur local? Comment s'assurer que les entrepreneurs comprennent les appels d'offres et leurs obligations contractuelles? Ou encore, comment pouvons-nous les aider à disposer de toutes les assurances financières nécessaires pour garantir le bon déroulement des travaux?
Alors, comment les PME congolaises de construction peuvent-elles bénéficier de l'expertise d'UNOPS?
Eh bien, la mission de l'UNOPS, déjà, ce n'est pas seulement de développer des infrastructures dans le pays. Nous investissons aussi beaucoup de temps dans la formation des entrepreneurs et des personnels locaux. Par exemple, en travaillant avec l'UNOPS, qui agit en tant que maître d'ouvrage délégué, les entrepreneurs congolais vont bénéficier d'une expertise et d'outils en termes de gestion de projets de construction, ce qui leur permettra de renforcer leur savoir-faire et d'être ainsi plus compétitifs. L'UNOPS investit aussi beaucoup dans la formation d'ouvriers qualifiés dans l'ensemble du pays.
Est-ce qu'il existe déjà des projets précis pour lesquels l'expertise des UNOPS a été sollicitée?
Bien sûr, dans chacun des projets dont la gestion nous est confiée, l'UNOPS met à disposition son expertise et expérience. Depuis 2010, par exemple, l'UNOPS a contribué à la construction ou à la réhabilitation de près de 2000 km de routes, 126 bâtiments, dont des écoles, des centres de santé et autres bâtiments d'État, ainsi que la mise en œuvre d'un grand projet de réhabilitation agricole à travers le pays. Ces travaux sont mis en œuvre dans des zones isolées où la sécurité peut être parfois précaire. Souvent aussi, le secteur des entreprises de construction y est peu développé et la main-d'œuvre qualifiée peu disponible. Il est donc très important que nous adaptions nos standards de gestion à la réalité de terrain, tout en permettant aux entreprises congolaises d'améliorer leurs compétences.
Guillaume Lemez, pour bénéficier de l'expertise de l'UNOPS, vous posez quelles conditions?
Alors, tous les projets qui sont gérés par l'UNOPS sont des projets qui sont en général financés par le gouvernement ou des bailleurs de fonds internationaux. Les partenaires de l'UNOPS doivent donc être engagés dans le cadre d'une procédure de marché public compétitive et transparente. Les entrepreneurs congolais qui souhaiteraient travailler avec l'UNOPS doivent donc consulter nos offres qui sont en général publiées dans les journaux locaux ou sur des sites internet tels que mediacongo.net au Congo, mais aussi affichées dans les maisons communales et les bureaux de l'UNOPS.
Pourquoi cet intérêt de l'UNOP sur le secteur des PME de construction en RDC?
Alors, comme je vous l'ai dit, un des objectifs de l'UNOP, c'est de contribuer au développement des pays dans lesquels nous opérons, notamment par le développement des infrastructures et les capacités locales. Il est donc logique et nécessaire que nous travaillions avec les entreprises congolaises, entre autres, afin de réaliser des projets de construction en RDC.
Comment l'UNOP juge le secteur de PME de construction en RDC?
Alors c'est difficile parce que les entreprises qui travaillent dans ce secteur doivent gérer des conditions de terrain qui sont difficiles, la logistique, l'accès au secteur bancaire, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Mais je sais aussi que les entrepreneurs congolais ont du cœur et l'envie de renforcer leur savoir-faire pour fournir des services de qualité. Cela passe évidemment par la mise en œuvre d'outils tels que des constructions adaptées, ainsi que de processus clairs de gestion des droits et des obligations des parties, ainsi que des risques associés au projet.
Vous êtes dans une mission, vous avez dit, de 10 jours. Après l'étape de Kinshasa, quelle autre étape en est laissée?
Alors, nous allons partir en Équateur pour visiter certains de nos sites et rencontrer nos équipes qui sont restées sur le terrain, notamment pour la construction de routes dans le cadre du projet de réhabilitation agricole dont je vous parlais.
Après cette mission, les 10 jours en RDC, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours?
Alors, l'objet précis de notre mission, c'est de renforcer les outils et les capacités de gestion de nos équipes pour qu'ensuite, dans le cadre des projets qu'elles gèrent sur le terrain, elles puissent passer ces connaissances aux entrepreneurs locaux et ainsi renforcer leurs compétences dans le but d'améliorer la qualité de leurs services et celle des infrastructures qu'ils construisent et ainsi devenir plus compétitifs.
Et mot de la fin?
Ben, je voulais vous remercier, ainsi que tous les Congolais, pour leur accueil si chaleureux, et j'espère pouvoir revenir bientôt.
Guillaume Lemaize, merci.
Merci à vous.
Notre nouvelle en province de ce dimanche nous emmène tout droit en province orientale et plus précisément en Ituri où des déplacés de guerre de Lagabo, village situé à près de 30 km au sud de Bunia, tiennent à regagner leur village. Ils fuient les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la FRPI de Cobra Matata depuis 5 mois. Ils ont finalement exprimé le vœu de rentrer mercredi dernier à une équipe de délégués des agences des systèmes des Nations Unies venus notamment de New York. Ces déplacés les ont aussi appelé à plaider pour eux auprès du gouvernement congolais pour rétablir la sécurité dans leur milieu d'origine. C'est un reportage de Jean-Paul Bassila.
Le programme alimentaire mondial a distribué hier à manger aux déplacés de Lagabo une ration de 15 jours. L'HCR leur a également donné des couvertures, des marmites, des jerrycans et d'autres biens. L'UNICEF appuie dans la même zone une école primaire d'urgence et aménage des sources d'eau dans le camp. De quoi dire merci aux agents du système des Nations Unies, mais les déplacés veulent plutôt rentrer chez eux. Claude Ribizitono, chef de groupe Mazadou.
Ici à Lagabo, nous avons 23 013 déplacés. Priorité des priorités, leur problème, c'est la sécurité. Alors, effectivement, les déplacés ont besoin de rentrer chez eux. Tous les déplacés ont la bonne volonté de rentrer dans leur village. Puisque vivre dans des sites, ça n'a pas d'importance. Moi, je recommande au gouvernement central de prendre les problèmes de Cobra comme ils ont pris les problèmes de M23.
Selon la même source, des déplacés qui ont décidé de retourner dans leur village à Kagouma et à Adi, qui est dans la même zone, il y a une semaine, ont été pillés par les miliciens. Ils ont carrément résolu de retourner dans les camps. C'est pourquoi ils demandent au gouvernement de sécuriser leur village. Des retours de la Gabo Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez cette question sur la sécurité en Ituri.
Alain Waikani, depuis qu'on a déclenché l'opération contre Cobra Matata, la MONUSCO a quand même des informations sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui Cobra Matata et puis quelle est sa capacité réelle de nuisance? Mais aussi le bureau politique de la MONUSCO a toujours eu des contacts avec les civils. À quel niveau vous évaluez aujourd'hui les dangers communautaires que Cobra Matata a causé là où il a mené l'opération, notamment des pillages contre les ethnies et Kosor?
Et voici la réponse du colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Vous avez raison d'évoquer les opérations qui ont été lancées par les FRDC contre les miliciens de Cobra Matata. Juste un bref rappel historique. Cobra Matata, depuis plus d'un an, avait clairement exprimé sa volonté de faire reddition aux FRDC et les pourparlers avaient été engagés avec les autorités congolaises pour parvenir à la conclusion, si vous voulez, de cette opération. Malheureusement, il a commencé ensuite à se redéployer et à occuper certaines localités assez importantes qui Tshetegeti, Aveba, Komanda, etc. Mais l'armée congolaise a lancé les opérations dans cette province. J'ai cité des opérations conjointes qui ont été mises en œuvre avec la MONUSCO, justement pour mettre en terme, ou en tout cas contenir les miliciens du Front de Résistance Patriotique dans des proportions acceptables, en attendant que les pourparlers se déroulent avec les autorités congolaises. Quand les pourparlers ont été bloqués à un moment, il a fallu prendre des mesures et l'armée congolaise a lancé des opérations contre Kwabra Matata et a réussi à les déloger de presque toutes les localités que les FRPI avaient occupées et à les pousser jusqu'à la frontière vers Borassi. Aujourd'hui, le FRPI, si vous voulez, est en quelque sorte en débandade ou en tout cas repoussé hors des territoires qu'ils occupaient, sont en train peut-être de se reconstituer. Toutefois, aujourd'hui, ils se livrent beaucoup plus à des activités de pillage, de vol de bétail. Vous avez raison d'évoquer le problème intercommunautaire qui pourrait surgir entre les Guiti et les Eba, parce qu'effectivement, le FRPI, qui est d'une certaine communauté, menait des exactions, volait le bétail dans notre groupe ethnique qui est assez proéminent dans la zone. Mais des contacts avaient été menés, des initiatives avaient été lancées justement pour amener les deux communautés à s'entendre et ne pas tomber dans le piège qui est posé par les éléments du FRPI compte tenu de leurs exactions sur une autre communauté. Mais les opérations se poursuivent au sud du territoire des Rubu et le FRPI n'a plus cette capacité de nuisance qu'elle avait parce que les FRDC leur ont infligé un taux d'attrition assez élevé qui ne leur permet pas aujourd'hui de mener des actions d'envergure.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Oui, bonjour. Je m'appelle Christian Kitenge Ampanya. Je suis marié, père de 3 enfants. Je travaille au sein des Nations Unies à la MONUSCO, au Transport Dispatch. Cela, ça fait plus de 10 ans maintenant. Travailler au dispatch consiste, comme moi, je travaille la nuit. On est là pour préparer les staffs à venir tôt le matin au travail et assister aussi les staffs qui vont voyager pour aller à l'intérieur du pays, dans les provinces, là où est-ce que nos agents sont représentés. Donc on est là pour les assister. Alors, avant cette agence, j'étais d'abord moi-même, je suis né en Chine. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde parce que je suis issu d'une famille de diplomates, mes parents étaient des diplomates, et puis j'ai fait mes études en Inde, j'ai voyagé en Chine, j'ai fait une partie aussi de mes études en Europe, et après cela j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, et à un moment j'ai voulu rentrer dans mon pays pour exercer les fonctions dans l'entreprise familiale, et après un certain temps on voulait aussi voler de mes propres ailes, et je suis entré au sein de la MONUSCO. Mon temps libre, je le gère plus souvent à la maison, avec ma famille, mes enfants. De temps en temps aussi à la prière. Et j'aime beaucoup la musique congolaise, c'est la musique occidentale. J'écoute beaucoup de chansons, Koffi Olomide, Fally Ipupa, et tout cela. Et dans mes projets d'avenir, c'est que si l'agence avait à fermer, je rentrerai dans les entreprises familiales et pourquoi pas aussi, selon ma formation en sciences politiques, parce que j'ai un bachelor, entamer une carrière politique dans la députation, quelque chose qui est dans ma formation et dans le cadre de ce que j'ai étudié.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et l'agenda de cette semaine, bien sûr, un seul rendez-vous, l'unité de sensibilisation de la division information publique de la MONUSCO, Outreach, organise cette semaine un atelier de formation des journalistes sur le traitement des informations religieuses. Cet atelier entre dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la culture de la paix, entamée en décembre dernier sur le thème « Dialogue interreligieux comme facteur de promotion de la paix » en RDC. De ce numéro du magazine des Nations Unies. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Mila Kimbuni à la présentation, Paul Badianyama à la régie, Nicole Ngaka à la supervision, Jean-Pierre Elalui Koko à la coordination et Honoré Missenga au portage. Le magazine des Nations Unies est à retrouver sur www.radiocapi.net. Vos suggestions, vos questions ou vos remarques, vous pouvez les poster comme commentaires en dessous de l'émission www.radiocapi.net ou vous pouvez aussi nous appeler directement au 082 30 76 630. 082 30 76 630. Envoyez-nous un mail si possible à macun@radiocapi.net. Excellente journée dominicale à tous.